Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie douce. Ici Yvan Bulgeot. Aujourd'hui, je reçois Cyrielle Richard, qui est psychologue et psychothérapeute. Elle nous parle de la paranoïa et de la schizophrénie paranoïde. À l'espresso et à l'espresso allongé, Pierre amène son sujet, l'enfant béquille. Notre chroniqueuse Catherine Stassin est aussi des nôtres. Son sujet, ça m'énerve, les charmants petits irritants de la vie. Tout ça à l'émission Folie douce cette semaine. On commence en chanson avec « C'est beau, c'est toi » de Philippines. Bienvenue chez nous.
Écoutez Folie douce, première émission radio francophone sur la planète démystifiant la santé mentale depuis 1991.
J'accueille maintenant mon invité Cyrielle Richard. Bonjour Cyrielle, bienvenue à Folie douce.
Bonjour, merci de m'avoir reçu.
Ça me fait plaisir. Vous êtes psychologue et psychothérapeute formée en France. Vous êtes nouvellement arrivée au Québec et puis vous êtes en processus d'obtenir une équivalence pour pouvoir travailler dans ce domaine. Vous avez un domaine quand même intéressant où il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de défis aussi. J'aimerais qu'on vous présente d'abord comment vous pouvez vous présenter en fait aux auditeurs, puis ensuite on va évidemment parler de différents sujets, dont on va parler aussi de la paranoïa et de la schizophrénie paranoïde, là, qui est un sujet que vous connaissez bien parce que vous avez écrit là-dessus, mais d'abord peut-être vous présenter un peu plus amplement.
D'accord. Alors, bonjour à tous déjà. Donc, je suis Cyrielle Richard. Effectivement, je suis psychologue diplômée en France. J'ai également une spécialité en neuropsychologie et également en thérapie cognitive et comportementale. Avant de venir ici au Québec, j'ai travaillé une dizaine d'années en psychiatrie, donc dans un hôpital en fait public. Et puis j'ai également exercé dans le privé, dans le secteur médico-social auprès d'enfants et puis d'adultes qui étaient en situation de handicap. Et puis j'ai également une expérience de formatrice pour des organismes privés, mais également pour des universités.
C'est intéressant. Et vous êtes donc, vous avez quand même œuvré, vous avez étudié surtout aussi en France. Vous amenez un bagage, un certain bagage, mm-hmm. parce que ça peut être similaire, mais sûrement, certainement qu'il y a des différences avec ici. Vous amenez sûrement un plus aussi. Ça va sûrement amener quelque chose que peut-être certaines personnes n'ont pas ici. Mais j'aimerais qu'on parle un peu des approches en santé mentale en France. Ça fait peu de temps que vous êtes ici. Mais est-ce que vous êtes capable de nous brosser un petit peu un tableau assez rapide quand même de comment ça se passe en France? Et avez-vous vu déjà des différences avec le Québec?
Oui. Alors tout d'abord, petite précision, en France, en fait, nous avons vraiment une dichotomie entre ce qu'on appelle le secteur public, c'est-à-dire tout ce qui va être les hôpitaux en fait gérés par l'État, et ce qui relève plutôt du secteur privé, donc notamment tout ce qui va être clinique, mais également cabinet. Et donc voilà, c'est vraiment deux mondes différents. Donc la plupart des personnes que j'ai pu rencontrer étaient orientées vers un hôpital donc de psychiatrie, donc autrement dit un hôpital public. Et donc, à ce moment-là, on est dans un secteur en fait qui est tout venant, c'est-à-dire avec des services qui accueillent en fait des enfants, des services qui accueillent des adultes et avec des problématiques très diverses. Dans le privé, on peut avoir des cliniques qui vont être spécialisées et d'autres, au contraire, qui vont être également avec une approche tout venant. Après, pour ce qui est des approches en psychothérapie, on a vraiment deux écoles dominantes en France, donc celle de la psychodynamie et puis celle des thérapies cognitives et comportementales. Et donc, à côté, on va avoir aussi d'autres courants, comme par exemple la systémie, mais également tout ce qui est thérapie humaniste. Mais ce sont vraiment les deux premières approches que j'ai citées qui sont les majoritaires, je dirais.
Est-ce que c'est un secteur qui est bien connu par la population ou ça reste un peu éloigné? T'sais, parce qu'au Québec, on essaie de démocratiser mm-hmm. le tout. Il y a des organisations qui font un peu de la démystification, un peu le rôle de l'émission un peu qu'on fait ici à Folie Douce. Mais est-ce que en France, est-ce que ça reste un milieu un petit peu intouchable ou comment vous voyez ça?
Je dirais que ça démarre en fait, mais que ça reste assez timide. C'est-à-dire qu'en France, par exemple, la plupart des lois qui régissent vraiment le secteur de la psychiatrie, alors il y en a des très anciennes, mais celles qui touchent vraiment à l'ouverture sur la cité, et aussi celles qui vont ouvrir aussi les soins et puis ouvrir les droits aux usagers sont assez récentes, c'est-à-dire qu'elles ont une vingtaine d'années. Pour donner un petit exemple, ici au Québec, la paire aidance est plutôt bien développée, implantée. En France, même si en soi on parle de paire aidance depuis une vingtaine d'années, en 2015 on avait 30 paires aidants à peu près. Là, ces dernières années, grâce justement à beaucoup de militantisme et puis à l'engagement également et des personnes concernées et des soignants, ça commence à s'ouvrir progressivement, mais ça reste encore très balbutiant.
Ouais.
Et tout comme là, au niveau de la psychiatrie, qui est un domaine dans lequel j'ai travaillé pendant une dizaine d'années, il y a encore beaucoup de mystères, beaucoup de stigmatisation également, malheureusement, et aussi une grosse méconnaissance des droits. Beaucoup de personnes, par exemple, ignorent qu'il existe des commissions des usagers qui, justement, sont là pour qu'elles puissent poser leurs questions, qu'elles puissent également faire reconnaître leurs droits si elles estiment ne pas avoir été bien prises en charge au moment de leur hospitalisation. Et ça, c'est vraiment très peu connu. Et en même temps, c'est assez peu implanté puisque ça a été créé par la loi de 2002. Donc 2002, ça fait quand même une vingtaine d'années.
Ouais. Voilà. C'est loin.
Mais ce n'est véritablement implanté que dans les gros centres universitaires et les petits hôpitaux de province, là où j'ai exercé pendant longtemps, vous n'en avez pas. Voilà.
J'imagine que aussi, par contre, l'approche est un peu comme ici. J'imagine que l'approche dans les plus petits centres ou dans les plus petites communautés, peut-être que c'est plus humain. Je ne sais pas jusqu'à quel point. Est-ce qu'il y a une différence en termes de peut-être d'approche au niveau de un peu la chaleur humaine, ou en tout cas le côté peut-être plus humain qu'on retrouverait dans des plus petits milieux?
Alors, je vous trouve très optimiste. Alors, non, je dirais plutôt qu'on connaît mieux les personnes parce que géographiquement parlant, c'est implantée et que du coup, bah, les gens viennent, voilà, viennent au même endroit. Est-ce que pour autant, on parlerait d'une approche plus humaine? Je ne suis pas certaine.
Mm-hmm. Voilà. C'est encore à voir.
Oui, beaucoup. Mais comme je vous disais, malheureusement, je parlais de stigmatisation. Malheureusement, la stigmatisation est encore très importante, que ce soit dans le grand public, mais également parmi les soignants. Et il y a encore beaucoup de personnes, par exemple, qui conçoivent des troubles chroniques, comme par exemple la schizophrénie, comme étant justement une sorte de maladie un peu incurable, mm-hmm. ce qui n'est absolument pas le cas. On parle beaucoup plus maintenant de rétablissement, de possibilité justement d'intervenir et pour soi-même, et pour la société, et pour également les autres personnes qui peuvent expérimenter les mêmes troubles. Ouais. Mais voilà, ça reste encore peu connu et il y a encore beaucoup de préjugés, mais dans tous les secteurs, quoi.
Et vous avez écrit justement sur le sujet, vous parliez de schizophrénie, mm-hmm. donc j'aimerais ça que vous nous expliquiez un petit peu ce que c'est la schizophrénie paranoïde et la paranoïa comme telle. Donc, ce serait intéressant d'approfondir un peu comment vous pouvez nous présenter ça finalement.
Oui. Alors, c'est vrai que le mot paranoïa est rentré en fait dans le langage courant, mais en fait, il faut savoir que ce terme-là, en tout cas ce diagnostic-là, n'existe plus à proprement parler. C'est-à-dire, vous pouvez regarder dans les grands manuels de classification, comme par exemple la CIM ou le DSM, vous mm-hmm. ne retrouverez pas la paranoïa. Par contre, ce que vous retrouverez effectivement, c'est la schizophrénie paranoïde et le trouble de la personnalité paranoïaque. Donc, mais bon, le mot paranoïa est rentré dans le langage courant.
Mais est-ce que ça fait partie du diagnostic de schizophrénie d'être paranoïaque ou d'avoir une certaine partie paranoïaque dans notre vécu de schizophrène?
Alors, en fait, pendant très longtemps, c'était deux entités différentes, dans le sens où on estimait que une personne qui souffrait de paranoïa souffrait d'une psychose, au même titre qu'une personne qui souffrait de schizophrénie. Sauf que lorsque l'on souffrait de paranoïa, eh bien, on n'avait pas forcément d'hallucinations, ce qui est le cas dans la schizophrénie. Mmh. Et surtout, on avait en fait ce qu'on appelait un délire systématisé. C'est-à-dire qu'il y avait des idées de persécution, mais qui étaient en fait construites autour d'un persécuteur désigné. Tandis que dans la schizophrénie paranoïde, au contraire, eh bien, il y a les hallucinations, mais il y a aussi en fait un délire qui peut être moins bien organisé avec du coup plusieurs persécuteurs ou alors des persécuteurs qui sont un petit peu flous et qu'on ne retrouve pas forcément. Et donc c'était à ce niveau-là essentiellement qu'on faisait la distinction entre les deux. Donc finalement, voilà, il ne reste plus que la schizophrénie paranoïde. Donc après, le délire de persécution, avec, je pense que tout à chacun l'imagine, c'est-à-dire l'idée qu'on va avoir un ou plusieurs persécuteurs ou un groupe de personnes qui va nous en vouloir, on peut le retrouver dans la schizophrénie, mais également dans d'autres troubles.
Mmh, exactement, exactement. Et qu'est-ce que fait que vous avez écrit sur ça? Vous avez écrit sur plusieurs sujets, mais c'est quand même c'est très... la schizophrénie, ça fait peur à beaucoup de gens. C'est un sujet, je pense, une maladie qui est peut-être une des plus connues là, en mmh. termes de santé mentale. Est-ce que c'est ça qui a fait que vous avez eu le goût d'écrire sur ça?
Oui. Alors, c'est à la fois connu et mal connu, en fait, je serais tentée de dire. Effectivement, moi, dans le cadre de mon travail de psychologue en psychiatrie, on rencontrait quand même beaucoup de personnes qui étaient avec un trouble de la schizophrénie, en fait, et donc avec des profils très, très variés. Et comme je vous disais, il y avait en fait il y avait le fait que c'était mal compris, en fait, mais que ce soit par les personnes elles-mêmes, que ce soit par les soignants, mais également par les familles. Et là, le livre que j'avais écrit, donc « Paranoïa et schizophrénie paranoïde en 100 questions », c'était vraiment avec l'idée de reprendre en fait un peu l'historique, de reprendre également les principales caractéristiques des troubles, et puis également de pouvoir parler des thérapies, de pouvoir parler également des modes d'hospitalisation, également parler des traitements médicamenteux, mais aussi de pouvoir parler rétablissement, et puis aussi pouvoir un petit peu déstigmatiser et puis sortir aussi de ce côté un peu effrayant que peut avoir la maladie aux yeux des proches, en disant qu'après tout, ça repose sur des mécanismes qui sont partagés par tout à chacun.
Il y a beaucoup de préjugés sur la schizophrénie. C'est peut-être la maladie qui fait il y a plus de préjugés dans la société. On a même le culot de dire un schizophrène a fait tel acte violent ou je ne sais pas. Tu sais, on spécifie que c'est un schizophrène. Ça donne une mauvaise image. On ne veut pas dire que c'est drôle et c'est rose d'avoir la schizophrénie, mais c'est pas vrai que c'est seulement. C'est loin d'être vrai que ce sont des gens violents là, en général. Là.
Tout à fait. Et puis là, pour le coup, je dirais pas merci Hollywood. C'est vrai que les médias véhiculent effectivement des fausses images. On pense, alors, mais ça, c'est partout dans le monde, que schizophrénie va rimer avec violence. Il faut quand même savoir que les personnes qui souffrent de schizophrénie ont beaucoup plus de risques de se retrouver victimes de crimes ou de délits que d'en commettre elles-mêmes.
Ouais. Et donc, il nous reste peut-être 2 minutes en tout, mais vous êtes venu au Québec. Oui. Je pense que vous suiviez votre conjoint quand vous êtes venu au Québec. Mais qu'est-ce que fait que vous voulez vous établir et finalement œuvrer dans le même domaine? Est-ce qu'il y a un défi pour vous? Est-ce que vous sentez que le Québec, il y a quelque chose peut-être de différent qu'en France?
Oui.
En quelques secondes.
Oui. Alors, très rapidement, en fait, c'était un projet commun, effectivement. On était venu déjà il y a 3 ans. Et là, c'était vraiment pour un projet personnel que j'avais et puis qui a donné suite en fait à un livre, voilà.
Ouais.
Donc en tout cas à plusieurs chapitres du livre en question dont je parlerai peut-être un petit peu après.
C'est quoi la titre du livre?
Oui, c'est Histoire insolite en psychiatrie. Voilà.
Un de vos autres livres.
Voilà, ouais. Tout à fait. Ouais. Et donc, du coup, voilà, suite à ce voyage qui, à la base, bon, servait surtout à collecter des données et tout ça, eh bien, on est un peu tombés amoureux, en fait, de la région, tous les deux. Et puis, on a eu très envie de venir s'établir. C'était déjà un projet qu'on avait, alors qu'on aurait voulu concrétiser en 2020, mais bon, voilà, tout le monde connaît la suite.
Tout le monde a mis sur pause voilà, tous leurs projets,
ça.
À peu près. Là.
Et finalement, on a décidé de passer à l'acte en 2022, quoi.
C'est excellent. Mais avant de terminer... J'aimerais beaucoup qu'on mentionne, en fait, les comment... Vous avez un blog, entre autres, mais vous avez des livres. Est-ce qu'il y a une façon facile de chercher? Est-ce qu'on cherche votre nom, Cyrielle Richard, psychologue, ou si une autre façon de vous trouver?
Alors, on peut effectivement taper ça sur Google. Après, effectivement, donc, je suis présente sur les réseaux sociaux. J'ai un Twitter qui est à Richard C. C'est Y-E à la fin.
Ouais.
Et sinon, je suis...
Sinon, vous avez un blog.
Oui,
c'est
et
ça.
Voilà. Et sinon, j'ai un blog, effectivement, qui s'appelle « Les petites histoires de la psy ».
Et on va mentionner de toute façon sur notre site web, dans la section mentionnée à Folie Douce, dans le site antenne.qc.ca. On va pouvoir mettre ça à l'endroit où il y a l'entrevue avec vous, Cyrielle Richard, donc psychologue et psychothérapeute. Merci d'avoir été des nôtres à Folie Douce et bonne vie au Québec. On va peut-être vous réinviter éventuellement pour avoir un peu la suite, parce que c'est tout nouveau, mais c'est intéressant de suivre votre histoire ici. Alors, merci d'avoir été à l'émission aujourd'hui.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir.
Je me promène dans une ville déserte. J'ai comme l'impression que la moitié de la ville c'est flex. C'est vendredi soir puis c'est dead. Je trouve l'inspiration quand que les lumières y s'éteignent. Yo, y'a pas un choc qui est dans les depths. J'en profite pour m'avancer dans mes textes. C'est dans la solitude les pensées viennent. Je me sens comme Will dans M. Legend. Personne renvoie les bouteilles à la marque. J'envoie par MSN. J'aime la cacophonie de la région métropolitaine. Mais j'aime le calme de ma région qui me permet de regarder le ciel. J'entends les vents qui sifflent, qui nous fait des ricochets sur les édifices, qui fait vibrer les fils électriques. Je traîne dans les rues, je cherche à faire quelque chose. Ici, beaucoup sont frileux même quand il fait chaud. Je passe devant des maisons délabrées qui sont tannées d'être où la lumière passe pas parce qu'il y a un drap qui est dans les fenêtres. Je passe devant le centre d'achat où je chillais quand j'avais 16, quand j'avais rien à faire à part caler des cannes de bière. Où sont passés mes chums, sont devenus fonctionnaires ou devenus millionnaires. Yeah. Je pense à quitter ce paysage de manière quotidienne. Mais ma ville a besoin de moi comme Détroit a besoin de Boldy James. Mon meilleur ami c'est Jeff ou Winnipeg. Dehors il fait frais, c'est une température tibétaine. J'essaye de me quitter une cigarette. Mais je me promène dans une ville déserte. J'ai comme l'impression que la moitié de la ville c'est flex. C'est vendredi soir puis c'est dead. Je trouve l'inspiration quand que les lumières y s'éteignent. Ouais, ouais, je me promène dans une ville déserte. J'ai comme l'impression que la moitié de la ville c'est flex. C'est vendredi soir puis c'est dead. Ouais, ouais, je me promène dans ma Vaux. Je me fais dépasser par un pick-up qui est à ma gauche. Je passe sous les radars, sous les miradors. Pendant que la ville la ronfle, pendant que la ville adore. Où sont passés les gens que je connais bien? Est-ce qu'ils ont pris le premier train en direction un joli coin? Dans ce désert, je suis le seul bédouin. Je suis tout simplement chanceux de pouvoir me lever demain. Y'en a leur souci, c'est pas de crever de faim. Des fois, je reconnais pas les miens. Depuis la pandémie, on n'est plus les mêmes. Avec les années, mon cercle s'est restreint. Non, je reconnais plus les rues, ni les gens qui passent. Ils ont mis une hostie tour à condo grisant par-dessus mon histoire. C'est mort le week-end. Et puis toute la semaine, je m'ennuie même des Ontariens qui venaient pour foutre la merde. Où sont passés mes chums avec qui j'aimais rigoler? Ils sont devenus pères de famille ou agents immobiliers. Je pense à quitter ma ville dans ces moments d'impasse. Mais ma ville a besoin de moi comme New York a besoin de Nas. Si dans ce rap je suis dans une catégorie à part, c'est peut-être que je suis seul dans ma ville qui fait un beat à soir. Quand que, ouais, je me promène dans une ville déserte. J'ai comme l'impression que la moitié de la ville c'est flex. C'est vendredi soir puis c'est dead. Je trouve l'inspiration quand que les lumières y s'éteignent. Hey. Ouais, ouais, je me promène dans une ville déserte. J'ai comme l'impression que la moitié de la ville c'est flex. C'est vendredi soir puis c'est dead. J'ai comme l'impression que c'est la nuit qui m'éveille.
Nous sommes bien présents sur Facebook. Cherchez Folie Douce Radio pour nous trouver. Folie Douce, une communauté, une radio.
C'est maintenant le moment du segment Espresso. Alors, Pierre, ton sujet, l'enfant béquille.
L'enfant béquille, oui. Un titre qui m'a accroché, c'est un sujet qu'on n'avait pas abordé, je pense.
On a souvent parlé de l'enfant, mais effectivement, ce sujet-là, non, ça ne me dit rien. Puis j'ai hâte de voir comment tu nous amènes ça.
Oui, mais en fait, c'est un article que j'ai trouvé sur Internet. J'ai pris ça sur le site marieclaire.fr, un site français. Et le titre de l'article, c'est « L'enfant béquille, celui qui doit gérer le mal-être de ses parents ».
OK, il devient la béquille là, dans ce sens-là. Ouais.
Exactement. Donc, puis on va voir que c'est une assez mauvaise chose.
Ça avait sûrement beaucoup de pression sur ce jeune enfant qui n'a pas encore toutes les capacités nécessairement pour gérer ça.
Exactement. Non pas que ce soit mal de vouloir dérider ses parents. Ouais. Il y a quelque chose de parfaitement naturel là-dedans. Ouais. Mais trop, c'est trop, comme on dit.
Exact.
Alors, c'est un article écrit par Mme Juliette Hochberg, qui est journaliste justement pour le site Marie-Claire. Alors, elle nous dit, lorsqu'un enfant devient le thérapeute de son parent, on parle d'enfant béquille. Béquille pour béquille psychologique. Souvent, elle nous dit, parent est celui qui lui livre ses insécurités, comme s'il était son ami ou son psy. Des informations intimes, gênantes, qui l'obligent à s'extraire de son monde d'enfant pour faire face à des problèmes d'adulte. Une souffrance souvent en sourdine. Un de ses enfants devenus grands nous dit « Je suis devenu fort en psycho en rassurant ma mère dans la cuisine jusqu'à 4 heures. » Entendu, 4 heures du matin. Mm-hmm. « Elle me parle toujours des mêmes histoires de famille atroces. Je les connais toutes déjà par cœur. » Dans la chanson « Plus de larmes », le rappeur-chanteur « L'homme pâle » confesse sa sensation d'être vidé de l'intérieur et d'avoir épuisé son stock de larmes. On l'écoutera à un moment donné, cette chanson-là.
Ben ouais.
Au détour d'un couplet, il évoque sa mère mélancolique et ses confidences tardives. Elle se confie à son fils dans les deux sens du verbe. Elle lui communique son secret et lui remet aussi comme un colis entre ses mains d'enfant. Et ça pèse lourd. Il a si souvent dû l'écouter et la conseiller qu'il pense être devenu fort en psycho, un vrai professionnel soit. Le parent a alors retiré le filtre de protection entre son enfant et lui, selon l'expression de Véronica Olivieri-Daniel, qui est psychanalyste spécialisée dans l'enfance et l'adolescence. L'écart et la distance qui fait autorité n'est pas maintenu par le parent qui s'ouvre à son enfant comme à un égal et un ami. Il n'adapte pas son discours ni les sujets évoqués en fonction de l'âge de sa progéniture, ni du lien parent-enfant qui les unit. Problèmes d'argent, d'emploi, de cœur, de sexe même. Fréquemment, il s'adonne à des confidences inappropriées. L'enfant devient son exutoire. La mère, plus souvent que le père, cherche consolation auprès de son enfant, observe la spécialiste. Ce qui s'explique notamment du fait de la charge maternelle, sans oublier que, au sein des familles monoparentales, les mères restent majoritairement en charge du foyer.
Et je me dis, tu sais, peut-être on va dire plus tard, mais peut-être que c'est la seule personne proche qui est comme accessible. T'sais, c'est pour ça que le parent comme se confie à l'enfant, ce qui n'est pas nécessairement une bonne
chose. C'est possible, oui.
C'est dommage.
Là, mais... Oui. Alors, la psychanalyste continue en nous disant, l'enfant vient remplacer le partenaire sans que le parent ne prenne en compte sa sensibilité, comme s'il avait oublié que c'était un enfant et qui plus est, son enfant. Véronica Olivieri-Daniel nous dit « L'adulte qui livre fréquemment son mal-être à sa progéniture l'a probablement fait une première fois dans un moment de détresse à la suite d'un événement vécu comme un drame. Le deuil de son propre parent, par exemple. Peu importe l'âge, on observe souvent régresser l'enfant du défunt. Dans sa douleur infantile, il n'épargne pas son propre enfant. » Quand Simon, par exemple, un étudiant maintenant âgé de 23 ans, écoute en boucle le titre dont on parlait tantôt « Plus de larmes » et tombe sur le couplet évoqué en début d'article, il se retient un court instant de respirer à chaque fois, puis expire fort, comme un soupir de fatigue morale. Cette mère esselée dans cette cuisine à cette heure insensée et l'imagine parfaitement. Pas besoin d'un clip, elle ressemble bientôt à sa propre mère. La cuisine est devenue la pièce à confidence de leur appartement. Ici, la mère dépressive lui livre ses humeurs. Elle embraye sur les mauvais agissements de son ex-mari, le père de Simon. Puis, c'est une tante qui en prend pour son grade, pour une trahison qui relève de l'intime et qu'elle révèle à son fils. Là, il doit jouer le rôle du bon ami, celui prêt à critiquer à ses côtés parce que ça ne se fait pas ce qu'elle t'a fait. Mais le plus souvent, c'est sur son chagrin latent que la mère divague. Alors Simon s'improvise psy, puis depuis maintenant 10 ans. Cette situation qui dure depuis ses 13 ans l'éprouve. Il semble épuisé et en interview sur le point de craquer. Il nous dit « Je n'écoute plus que d'une oreille », avoue-t-il. « Je ne peux plus être son sauveur. Je suis fatigué de cette noirceur. » Simon est conscient de leur relation anormale et illogique. Même selon lui, je suis devenu le père de ma mère. Se désole-t-il.
C'est incroyable quand même.
Hein? Ouais. Ce qu'il décrit n'est autre que la parentification, un processus d'inversion des rôles qualifié ainsi par les spécialistes britanniques.
Je me dis souvent, Pierre, que tu sais, même comme adulte, des fois, c'est pas toujours évident d'écouter des confidences de quelqu'un. Alors, imagine un enfant qui a vraiment pas développé tout son caractère, ça doit être vraiment difficile.
Surtout quand ça devient intime. Là.
C'est vraiment, c'est ça. Donc, il ne peut pas refuser, c'est sa mère ou son père, mais c'est pas
exactement,
évident.
Oui. Les enfants sont des éponges émotionnelles, formule le psychanalyste transgénérationnel Bruno Clavier. Et je reviendrai un peu plus tard avec la suite de cet article.
Très intéressant comme sujet, l'enfant béquille. On poursuit ça à l'espresso allongé plus tard à l'émission.
La bonne santé mentale touche à tous les aspects de notre vie. Donnons maintenant la parole à nos chroniqueurs.
J'accueille maintenant notre collaboratrice, Catherine Stassin. Bonjour Catherine.
Bonjour Yvon.
Aujourd'hui, ton sujet, ça m'énerve, les charmants petits irritants de la vie. Effectivement, il y en a beaucoup.
Oh, il y en a beaucoup. Aujourd'hui, il y en avait beaucoup.
Oui.
Il y en avait beaucoup. Et ce que je vous propose, c'est de vous en parler un petit peu. On va passer à travers.
Parce que c'est vrai que les irritants peuvent miner la santé mentale. Tu sais, on rigole
voilà,
un peu.
C'est
mais
pour ça qu'on en parle.
Effectivement, c'est ça qui fait que l'accumulation de tout ça, on en rit bien. Des fois, on peut en rire, mais des fois, c'est effectivement très irritant.
Ça nous use. Alors là, je vais vous donner des exemples d'une journée typique.
Oui, OK.
Mais où tous mes souvenirs, je les ai mis dans une seule journée.
Okay.
Donc, ça va être gros comme journée.
Mais c'est pas arrivé cette journée-là.
Non, c'est pas tout arrivé en même temps.
Tu as fait un ramassis, là. Ouais.
Mais c'est vrai que dans la mesure où vous sentez que ça vous touche encore longtemps après, j'en parlerai un peu plus tard, là, c'est vrai que, bon, ça devient autre chose que des petits irritants, alors. Parce que le terme le dit, les petits irritants, normalement, on arrive à passer par-dessus, mais c'est pas toujours le cas. Bah, ça commence par le réveil, tout simplement.
Ouais.
Et moi, ce que ça m'énerve, moi, le matin, je suis retombée sur la même chanson que j'avais entendue le soir en m'endormant.
Et
j'en peux plus.
Et t'étais restée avec un verre d'oreille que tu voulais te débarrasser.
Je n'en peux plus écrire le nom dans le sable et m'acheter des fleurs. J'en peux plus.
Ouais.
Alors, messieurs les programmeurs de musique, je vous demande une petite faveur, là, aller chercher quelque chose qui change.
Bien, à la radio, à part une émission comme la nôtre et certaines stations, mais la plupart du temps, c'est des top 40 qui reviennent jour après jour, effectivement. Là.
Voilà, ça en peut être. Hein. Bon, et quand on a fini de se lever, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on se dit, faut que j'aille au boulot, donc je vais vite au boulot. Et puis là, je regarde ma poubelle qui déborde et je me dis, c'est l'heure, là, quand même. C'est le jour et c'est l'heure.
Et personne n'aime ça,
sortir les poubelles et les recyclables non plus, parce qu'il faut les mettre dans un sac poubelle.
Ouais.
Et puis là, je me suis dit, mais c'est complètement dingue, ce sac poubelle. J'ai payé ça une fortune, ces sacs.
Ouais.
Et puis, je le jette tout de suite. Donc, ça m'était venu comme ça. Je me suis dit, j'achète, puis je jette. Et puis, j'avais l'impression de jeter mon argent, mon portefeuille sur le trottoir. Mais bon, c'est pas grave, je l'ai fait. Hein.
Ouais.
J'ai quand même mis mes recyclables sous le trottoir. Et puis après, je me dis, bon, bah, allez, va prendre ton bus, t'énerve pas, c'est pas grave. Et puis, qu'est-ce qui arrive dans le bus, évidemment?
Moi, ce que je trouve. Il n'y a pas quoi? De place.
Pas de place, à la limite, là, ça peut arriver, mais bon, c'est un peu quasi le quotidien, je dirais presque. Ça dépend où on habite. Mais moi, je trouve qu'il y a toujours l'éternel gars avec son sac à dos qui garde sur le dos.
Et qui bloque tout le monde pour. Et qui
je
bloque
sais pas
le
si
passage.
T'as déjà expérimenté.
Oui,
ouais,
j'ai déjà expérimenté.
Moi, je ne suis pas très grand, donc j'ai toujours en plein dans la face le sac à dos. Et puis quand il bouge, ben ça cogne. Là,
et on se demande ce qu'il y a dedans, mais c'est toujours plein à craquer.
C'est plein, mais c'est plein. Et c'est surtout qu'ici, normalement, tout le monde sait qu'on retire son sac à dos. On le met à ses pieds, on le tient. Même si on est debout, moi je le retire, mon sac à dos, je le mets à mes pieds. Donc là, tu dis, mais qu'est-ce qu'il n'a pas compris, lui? Et comme je suis énervée parce que je suis irritée, c'est un petit irritant, je ne vais pas lui parler gentiment et lui dire, monsieur, vous savez, ici, on baisse son sac à dos, c'est pas une coutume, là, tu sais, au Québec. Et donc, quand on est nouvelle arrivante, comme moi, il y a 20 ans, je ne le savais pas, ça, mais je l'ai appris en voyant les autres. Soit, donc, il n'y a pas que des étrangers qui font ça, à mon avis. Ça m'énerve, ça. Et je chiale.
Il y a des gens qui sont dans leur bulle, c'est ça qui arrive. Là. Je pense en société, il y a
ils
beaucoup de gens qui...
Ils peuvent peut-être être dans leur bulle, mais peut-être. Mais ça, je trouve qu'on remarque. Alors, à la personne, je trouve qu'il y a une différence entre une personne qui est vraiment dans son fort intérieur, qui a sa musique, qui a oublié de retirer son sac à dos, je ne sais pas. Peut-être moi qui le prends comme ça, mais je me dis, là, j'ai comme une autre perception de la personne. Mais bon, là encore, je me dis, Catherine, tu t'accroches, tu sors du bus, tu vas au boulot.
Et la journée ne fait que commencer.
Et la journée ne fait que commencer.
Tu ne veux pas t'énerver. Là.
Et là, je me dis, oh, youpi quand même, parce qu'il y a des youpi. Je n'ai pas de pourriel dans ma boîte de courriel. Donc, tout va bien.
C'est déjà bien pour ça.
Oui, mais attention, je n'ai pas de pourriel, mais il y a quand même des trucs que je dois faire attention, je ne dois pas cliquer. Et je me dis, moi, j'ai autre chose à faire que faire attention. Quand j'ouvre, j'ai envie d'aller tout de suite sur l'information, mais non, je ne peux pas. Donc, il faut très réveiller le matin.
Ouais.
D'accord? On ne peut pas aller à l'aveuglette, là, sur son courriel, on doit faire attention. Et, le truc typique au boulot, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, moi, c'est qu'évidemment, il n'y a jamais le bon chargeur. Parce qu'il y a des gentils collègues, quand même, qui disent « Oh, ben attends, j'ai un chargeur. »
Pour
ah, mais c'est pas le bon. Ben oui, ouais. C'est pas le bon. Et puis, comme moi, je travaille au bureau avec mon cellulaire personnel aussi, c'est le même cellulaire, c'est les deux.
Et pourquoi les compagnies n'arrêtent pas de changer les prises de tout?
Ben, pour qu'on achète, je crois, d'autres chargeurs, parce qu'on change de téléphone.
Et ils les font de très bonne qualité, que c'est tellement de bonne qualité que ça brise en peu de temps aussi.
Peut-être aussi, c'est ça. Il ne faut pas marcher dessus. Faut pas...
Ah, puis même voilà. Juste les tirer de moindrement, ça brise à le regarder.
Ça, j'ai jamais fait, mais...
On éternue et ça brise, presque.
Bon, ben voilà. Écoute, j'ai jamais éternué sur un chargeur, mais si j'ai envie de m'énerver sur quelqu'un, je le ferai.
Ouais.
Je retire ça. Alors, qu'est-ce que j'ai eu d'autre? Après ça, je me dis, allez, tu te calmes un petit peu, tout va bien. Là, les collègues sont gentils, m'ont quand même proposé un autre chargeur, etc. Et puis, là, à ce moment-là, je me dis, tout se passe bien dans la matinée, mais quand même. Le lunch approche. Et qu'est-ce qui se passe? Les gens commencent à sortir un petit fruit ou une affaire comme ça. Tout va bien. Ça passe. Moi, je travaille dans un espace ouvert. Mais non, il y a toujours quelqu'un qui sort son paquet, genre paquet de chips bien bruyants. Mais c'est pas des chips, parce que les chips, c'est mou un peu. Non, c'est des crackers. Comme des espèces de mini bruschetta, là, je sais pas comment...
Oh oui, quelque chose de très...
crackers.
Ça fait beaucoup de bruit, là.
Donc, quand tu les mets, t'as l'impression d'avoir un rongeur dans l'oreille. Donc, quand elle mâche, elle est pourtant à trois bureaux. Il n'y a pas que moi ça doit énerver. Hein. Et c'est tout de 11h, 10h30 jusqu'au lunch, à la fin.
Ouais.
Donc, il craque, 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 craque dans le paquet, craque, 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 craque dans la bouche. Et toi, tu essaies de te concentrer. Là, je me dis, reste calme, Catherine. Ne pense pas à ce bruit-là, parce que c'est comme la mer. La mer, ça fait du bruit, mais on aime bien le bruit de la mer. Donc, je me dis, il y a quelque chose de bien dans son bruit de craquers, mais je n'ai pas trouvé.
Ouais.
Alors,
ou
j'ai
tu ne t'es pas
trouvé.
Encore habitué.
Non, 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 je ne crois pas que je m'habituerai. Alors, après ça, je me suis dit, bon, ben, c'est l'heure du lunch, on va y aller, mais je n'ai pas pris mon lunch pour une fois. Bon, les seuls lunch qu'il y a, ils sont très bons, mais c'est une sorte de machine à sandwich et à soupe congelée, hein, je préviens. Et donc là, ben, je vais quand même chercher ma carte bancaire, il n'y a pas de monnaie. Évidemment.
Et on doit payer avec la monnaie dans les machines, c'est ça?
Ben non, il accepte ma carte.
Maintenant, okay.
Ben je fais une fois, ça ne marche pas. Je fais une deuxième fois, ça ne marche pas. Mais donc, il prend deux fois ma soupe, mais moi, je n'ai pas de soupe. Alors, je me dis, c'est pas grave, Catherine, tu vas aller manger les galettes, tu vas demander les galettes de ta voisine, parce qu'il faut que tu manges quelque chose à midi.
Ouais.
Et comme à l'endroit où je travaille, il n'y a rien autour, je ne peux pas dire, je vais aller au petit snack du coin. Sinon, on prend une demi-heure pour faire un aller-retour. Donc, je me dis, tout va bien, Catherine, va travailler, tu ne vas pas penser à manger, tout va bien. Donc, je travaille et quand même, ça se passe bien l'après-midi. Puis, je me dis, OK, cool, je vais aller me calmer, je vais aller marcher pour prendre le bus. Mais je marche un peu plus longtemps pour prendre le bus plus loin, histoire de me calmer des irritants que je viens de vivre dans cette journée. Et à ce moment-là, je prends mon bus quand même à un moment donné, parce que bon, hein, on peut dire qu'on ne peut pas remonter quelques kilomètres sans fin. Et là, évidemment, qui n'a pas expérimenté ça, quelqu'un dans le bus qui, au lieu de se parfumer, s'est baigné, je dirais, a fait tremper dans un pot de parfum. Là, je ne sais pas comment on lui a appris. Messieurs, dames, s'il vous plaît, ce ne sont pas des fleurs dans un vase.
Son odeur le précède.
Ce ne sont pas des fleurs. Voilà, c'est ça. Donc, vous essayez d'aller plus loin dans le bus, mais avec le courant d'air des arrêts qui s'arrêtent, ben, ça ne marche pas, ça marche pas. Donc, vous prenez votre mal en patience, vous dites, ça va finir, j'arrive presque à la maison.
On étouffe,
voilà.
Mais ça va.
J'arrive à la maison. Et là, je suis tellement heureuse, je dis, je vais me détendre dans ma petite cour arrière. Et évidemment, il y a du soleil, donc je vais en profiter. Et là, il y a mon cher et tendre voisin, je te salue, mon cher voisin, par la même occasion. Que j'appelle la scie à disque.
Il va se reconnaître.
Il va se reconnaître.
Et c'est une histoire vraie.
C'est une histoire vraie, évidemment. Et donc, ce cher monsieur, à mon avis, il n'a pas meublé que son appartement. Il a dû meubler l'entièreté de Montréal ou en tout cas le pâté de maison. Parce que chaque fois qu'il fait beau et que j'ai envie d'aller dans ma cour, il sort sa scie. Donc, voilà, ça, c'était pour un irritant quand même assez fort, hein, je dois dire.
D'autant plus que c'est ton chez-toi. Que...
C'est mon chez-moi, j'ai envie de relaxer, j'ai payé ma cour, j'ai envie d'en profiter. Et puis, je mets ma hotte au maximum pour, histoire de couper et préparer mon repas et oublier la scie et penser à autre chose. Et à ce moment-là, je me dis, je vais quand même aller voir mon petit ordinateur, si tout va bien, je vais aller m'amuser, jouer des petits jeux un peu idiots, hein, ça fait du bien.
Ouais.
Et puis là, évidemment, vous savez bien que sur les jeux vidéo, qu'est-ce qui se passe? C'est que si on ne paye pas, c'est nous le produit. C'est nous, en tout cas, qu'on vise.
Ouais.
On essaye de vous vendre plutôt un produit.
Il
n'y
a rien de gratuit, là.
Donc, apparaissent tous ces magnifiques pop-up de publicité. Et là, quand vous essayez de cliquer sur la petite croix en haut à droite, vous avez déjà essayé ça? Eh bien, ça s'en ouvre d'autres. Des fois, vous arrivez à fermer, mais il y en a d'autres qui arrivent. Pour vous dire qu'on peut... ne pas arriver au bout d'une journée d'irritant. Il peut se passer encore et encore des choses. Qu'est-ce qui est important ici, moi je trouve, c'est qu'en fait, on doit essayer de ne pas accorder trop d'importance à ça. On doit essayer d'en rigoler. Parce que moi, pour finir, quand je raconte ça à des amis ou chez moi, les gens se marrent. Ils disent « Ah, c'était drôle et
non,
tout. »
Mais c'est drôle à t'écouter.
Non, c'était pas drôle.
Mais c'est pas drôle à le vivre.
Pas drôle à vivre.
Effectivement, ça paraît drôle. Mais...
Parce que moi, je trouve que c'est comme, en effet, on a l'impression des fois qu'on ne se sent pas toujours respecté ou en tout cas qu'en effet, certaines personnes ne sont pas altruistes spontanément.
Et pas qu'on ait la vérité infuse puis qu'on sache tout, mais effectivement, il y a des gens, on dirait qu'en société, ne réalisent pas qu'on est en société. On n'est pas... à 10 km de tout le monde, là, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Et même à 10 km tout le monde, il y aurait des limites. Tu sais, on ne pourrait pas faire ce qu'on veut. Là.
Je pense que c'est ça. Il faut vraiment penser qu'on est en société, qu'on travaille en société et que donc on a des loisirs en société. On a le droit d'être irrité. Il faut faire sortir la vapeur.
Ouais.
on doit les taper dans un punching ball. Donne-moi le mot en français.
Oui, ben non, c'est exactement ça.
On doit aller faire sortir la vapeur. Mais on ne peut pas s'empêcher, quand ça s'accumule une certaine journée, que ça nous touche, ces irritants.
Et comme tu disais, ce n'est pas facile des fois de dire à quelqu'un calmement qu'est-ce qui fait, ça nous dérange.
C'est pas
facile
bon
parce qu'on
est
dérangé.
Voilà.
Donc, c'est
des fois. On attendre le lendemain des fois.
Puis des fois, c'est pas. Non, mais comme la personne dans le bus, elle est là.
Mais
des fois, sur le coup, tu fais comme. T'absorbes puis tu laisses faire.
Oui,
là.
Parce que je crois que, bon, sauf si on sait le dire gentiment et calmement, mais alors c'est que ça ne nous a même pas touché. Mais oui, je crois que ce qui compte, hein, si vraiment ça nous touche et que tous les jours on a des choses comme ça, par exemple, moi, aller à l'épicerie à un moment où il y a beaucoup de monde, etc., je déteste ça.
Ouais.
Donc, ben, pourquoi pas changer d'horaire et trouver un moment à l'épicerie où il n'y a pas de monde. Donc, ce qui est important, c'est de faire une petite liste de ce qui nous touche vraiment.
Les irritants, nos irritants, qu'est-ce qui nous irrite?
Et là, on trouve des solutions alternatives. Hein?
Ouais.
On va faire autrement. Il y a une solution pour chaque petit irritant.
Et d'en parler, comme tu dis, peut-être
d'en
des gens vont pouvoir...
D'en rire.
Déjà, d'en parler, ça évacue la frustration, ça va évacuer la problématique parce que ça crée de la frustration, ça fait monter un peu justement l'anxiété des fois ou la colère jusqu'à un certain point. En tout cas,
ça dédramatise, en fait.
Ouais,
quand
ouais,
on en parle, ça dédramatise. Et il faut dire que c'est le reflet de notre monde qui est imparfait. Ce sont des imperfections.
Ouais.
Et nous-mêmes, on est imparfaits et on irrite certainement quelqu'un d'autre. C'est ça qu'il faut retenir aussi un petit peu.
Et avant de terminer, c'est un beau sujet. Je pense que les gens ont besoin de parler, n'ont pas de proches, ça, peuvent s'adresser à l'ordre... En tout cas, peuvent chercher peut-être des ressources à l'ordre des psychologues ou en tout cas de...
Je pense que si ça c'est irritant, vous dure... Et vous l'avez en tête encore une semaine, deux semaines après, mais de manière que ça vous énerve, je crois qu'il y a peut-être autre chose. Il faut peut-être aller consulter quelqu'un, au moins en parler à un professionnel et on a donné les coordonnées.
Oui, ordrepsy.qc.ca. Merci beaucoup, Catherine Stassien. C'était différent et intéressant. Merci pour cette chronique donc sur les irritants au quotidien. Merci beaucoup.
Merci, Yvon.
Au revoir.
Au revoir.
Le mot sentiment me fait peur, me coule dans le ciment. Ça va vite. Tellement lentement, on est dans le même corps, en désaccord, tout le temps. Le temps est long, longtemps. C'est fou de connaître ton nom, tu t'étais jamais présenté. T'es entré dans ma tête sans même enlever tes souliers. Remarque, je suis pas surprise, non. Je suis pas étonnée, tout le monde le sait. T'es sale et mal élevée. Mais je suis juste un pourcentage que le monde comprendra pas. C'est pas censé faire mal si on le voit pas. Tout ça c'est qu'une image, qui a pu inventer ça? Je préfère me mettre la tête dans le sable et me dire que ça existe pas. Aucun préliminaire dans ma tête, à grand coup de scalpel. Ils te font fitter d'une petite cuillère pour mieux te ramasser à belle. Sortez dans le porte-poussière, je suis loin d'être éternel. Mais je suis juste un pourcentage que le monde comprendra pas. C'est pas censé faire mal si on le voit pas. Tout ça c'est qu'une image, qui a pu inventer ça? Je préfère me mettre la tête dans le sable et me dire ça existe pas. J'arriverai à take the lead. J'arriverai à faire taire la voix, celle qui me dit.
pas malade, que c'est normal, que les médecins, c'est tout égal. Ici ma tête, je suis contrôlable, il n'est pas question que je les avale. Je suis pas une bonne, malade mentale, c'est quoi le problème? Pourquoi tout le monde me regarde, j'ai chaud, j'ai frette, j'ai la gorge sèche. À quoi tu penses, tu parles de moi, je sais que ça, pourquoi tu mens? C'est ma tête qui tourne ou mes jambes qui tremblent. Arrête d'exagérer avec ton ambulance. Ok, je me rends à l'évidence, donne-moi en deux. Puis je vais les prendre jusqu'à ce que je sois un robot. Une enveloppe qui pue la dépendance et qu'au moindre bobo, je me garoche sur le pot pour en prendre.
Que vous soyez malin, peu enclin, radin ou épicurien, vous êtes à Folie douce.
Nous poursuivons maintenant avec le sujet entamé plus tôt, Pierre, l'enfant béquille, un sujet très important, je pense, oui. Très intéressant aussi à écouter.
Oui, c'est d'après un article que j'ai trouvé sur Internet qui s'appelle « L'enfant béquille, celui qui doit gérer le mal-être de ses parents ». C'est sur le site marieclaire.fr, un article écrit par Mme Juliette Hochberg, qui est journaliste pour le site Marie-Claire. Alors, je disais tantôt que Bruno Clavier, qui est psychanalyste transgénérationnel, nous dit que les enfants ne peuvent recevoir les problèmes de leurs parents sans en souffrir. Véronica Olivieri-Daniel confirme en disant que l'enfant souffre de sa propre impuissance. Que peut-il faire, au fond, pour aider son parent?
Ouais.
En plus d'une confusion et d'une perte de repères, l'enfant peut aussi éprouver une gêne. Contrairement à son parent, lui a conscience qu'il n'a pas à recevoir ce genre d'informations intimes qui ont parfois à faire avec la pudeur. Une mère, par exemple, peut dire à son enfant « Ton frère m'épuise. Maintenant, tu es grand et tu peux comprendre. » Ces remarques sont autant de signes que le parent compte sur son enfant comme s'il n'en était pas un. Elles peuvent être signes d'une relation dysfonctionnelle, mais dans la plupart des cas d'enfants béquilles, ces petites phrases ne sont pas prononcées puisque justement il n'y a pas de cadre posé. Le mal-être est déversé comme il vient, dans un instant de détresse, sans prévenir et sans encadrement bienveillant pour l'enfant. Madame Olivieri-Daniel nous dit « C'est sain de se rendre compte que ses parents ne sont pas infaillibles ou parfaits et l'on peut tout dire à un enfant, les problèmes d'argent, la perte d'un travail, dire que l'on divorce, que l'on est malade, mais une fois seulement que les choses ont mûri, parce qu'il faut être en mesure de le sécuriser. Tous les sujets peuvent être abordés dans un discours particulier et dédié. » Et surtout si l'intérêt de la conversation est le bien-être de l'enfant et non le mal-être du parent. Retenez la phrase « parlez si cela le libère, lui
mm-hmm. ».
Alors, dans un autre article maintenant que j'ai trouvé sur le site, c'est un autre site français, un site qui porte le nom de femina.fr. Le titre de l'article est « Enfants soigneurs, ces enfants qui soignent leurs parents », écrit par Mme Sophie Carquin, qui est journaliste et écrivaine française. Elle nous dit « Aujourd'hui, adulte, Caroline raconte son histoire, celle d'une petite fille qui sentait la tristesse de sa mère au point de devenir une enfant parfaite, entièrement au service de cette maman fragile qu'elle cherchait à sauver. Jusqu'au jour où elle a dû se sauver elle-même. Née un an après la perte d'un bébé, ma mère a été toute son enfance imprégnée de la souffrance de sa propre mère. Elle en est devenue elle-même profondément mélancolique. Et moi, je lui massais les pieds pour la soulager. Je lui servais du champagne et j'étais heureuse quand je lui arrachais un sourire. Et puis, à 13 ans, brutalement, je suis devenue anorexique. La souffrance d'un enfant ou de l'adulte qu'il deviendra peut parfois s'expliquer par cette inversion des rôles lorsqu'il devient soigneur et se donne pour mission de sauver ce parent fragile. Revenir sur ces mécanismes peut aussi être l'occasion de se poser les bonnes questions à la lumière d'un processus complexe.
Ce que je me dis, les parents qui font ça, dans le fond, le font un peu par ignorance, parce que s'ils savaient ce que ça peut causer comme problème, tu sais, je pense pas qu'ils...
Tu dis un peu plus tôt aussi que peut-être que ces gens-là n'ont pas personne d'autre à parler.
Aussi, c'est
mais
ça.
Mais c'est peut-être pas une très, très bonne excuse,
non,
au fond.
Non, non.
Alors... on nous dit d'abord, cette mission de sauveur, comme je disais tantôt, c'est très inconscient. La psychanalyste Nicole Prieur nous explique « Ne pensez pas que ces enfants soient si altruistes. Ils agissent pour eux-mêmes. Profondément vulnérables dès la naissance, un tout petit a besoin qu'un adulte fort le prenne en charge. » Alors, ce n'est pas le cas. Il cherche à le détourner de sa souffrance pour que par ricochet, le parent le regarde enfin.
Mm-hmm.
C'est intéressant.
Ouais, c'est une façon,
oui. Oui. Le psychanalyste Bruno Clavier nous dit « Tous les bébés sont des éponges émotionnelles. Ils vivent dans une telle osmose avec leurs parents qu'ils sont nourris de leur joie et de leur tristesse. Comme ils ne maîtrisent pas encore le langage, ils n'ont aucune distance avec les mots. Ils absorbent tout. » C'est ce que l'on appelle la transmission épigénétique par le comportement et les états d'âme. Lorsqu'un traumatisme, maladie, mort d'un enfant, inceste, fausse couche a eu lieu, que ce soit du côté du père ou de la mère, et qu'il est resté tabou ou mal expliqué, l'enfant peut le vivre dans sa chair jusqu'à tomber malade. Pour la psychanalyste Virginie Meglé, tout le monde a l'impression que ses enfants vont mal. Or, ils ne font que révéler un dysfonctionnement au sein de la famille. Des insomnies, des colères à répétition, de l'énurésie, le symptôme devient ainsi une clé et la souffrance une énigme à explorer. Cela peut aussi devenir pour l'enfant un moyen inconscient de pousser son père ou sa mère vers le psy. Alors, je vais m'arrêter ici et on
va mentionner les liens de ces articles-là sur notre site antenne.qc.ca dans la section mentionnée à Folie Douce. Alors, merci beaucoup pour ce sujet, Pierre. L'enfant béquille.
Thank you. Vous souhaitez écouter l'émission Folie douce au moment qui vous convient le mieux? Branchez-vous sur notre site web pour accéder à notre canal radio sur YouTube. antenne.qc.ca, antenne.qc.ca.
Quelques mots avant de terminer ce rendez-vous de cette semaine. On va nommer les chansons qu'on a entendues dans l'émission. La première, Pierre, C'est beau, c'est toi.
Oui, de Philippines.
On a entendu Ville déserte.
De D-Track.
Dans la deuxième demi, Dysphorie, le diagnostic.
Oui, de Roxane Bruno.
Et à l'instant, Alléluia.
De Bertrand Belin.
Merci beaucoup pour ce choix musical et ton travail en régie.
Bienvenue, mon cher.
Et merci également pour tes expressos. Tu nous as parlé du sujet L'enfant béquille. Merci pour ça. Notre invité en début d'émission, Cyrielle Richard, nous a mieux fait connaître sa profession de psychologue et psychothérapeute. Il nous a parlé aussi de paranoïa et de schizophrénie paranoïde. Notre chroniqueuse Catherine Stassin nous a amené son sujet. Ça m'énerve, les charmants petits irritants de la vie qui peuvent être rigolos des fois, mais qui peuvent quand même ajouter au stress et éventuellement à des problèmes de santé mentale. C'était donc Folie douce cette semaine. C'est Yvan Bugeaud à l'animation. Bonne semaine à tous et à la prochaine. Au revoir.